Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes et tous dans Libre à vous, c'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. C'est un grand plaisir de vous retrouver après 2 semaines sans émission. En effet, dans le cadre du mouvement social en cours contre la réforme des retraites, les appels à la grève et à manifestation sont jusqu'à présent inscrits notamment autour d'un rendez-vous les mardis, donc jour de notre émission. Même si ce mouvement social ne concerne pas le logiciel libre, cela a impacté notre capacité à vous proposer des émissions inédites ces dernières semaines. D'une part, car des personnes membres de l'équipe Libre à vous ont pu être amenés à prendre part à cette mobilisation, de même pour les personnes invitées, et d'autre part car la radio Cause Commune a pu être amenée à réserver le créneau de mardi après-midi pour couvrir les manifestations à Paris. Le prochain appel à grève et manifestation est d'ailleurs prévu le jeudi 16 février et Cause Commune couvrira cet événement. Nous voilà donc de retour sur les ondes de Cause Commune. Le programme du jour, le système de gestion de contenu Drupal pour créer des sites web. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Braille Rap, une embosseuse ou machine à écrire en braille sous licence de matériel libre. Et aussi la chronique d'Antanac sur la VSA. Je ne sais pas ce que c'est que la VSA parce que j'ai appris le sujet 3 minutes avant d'entrer en émission. On verra ça tout à l'heure. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Fred Accouché, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 14 février 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Thierry Holville. Bonjour Thierry.
Bonjour à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Que libérer d'autre que du logiciel? La chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par tous et toutes. Le sujet de la chronique du jour, la VSA. Hey. Bonjour Isabelle.
Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, en effet, aujourd'hui, je voulais relayer la campagne de mobilisation qui a été lancée hier, donc le 13 février, par la Quadrature du Net. Souvent, je parle d'eux, et c'est vrai qu'à Antanac, on est très friands, on suit beaucoup les actions, les analyses qu'ils mettent en exergue. Et là, il s'agit de la loi JO, Jeux Olympiques 2024, et notamment son article 7, dans lequel les auteurs de ce projet valident et valorisent l'utilisation de la VSA. VSA, vidéo surveillance algorithmique. D'autres disent aussi vidéosurveillance augmentée, comme on parle de réalité augmentée, comme ce serait plus fort que ce que tous les humains et les humaines sont capables de faire. Bref, la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, n'est pas un simple logiciel. Elle analyse en fait des milliers d'heures de vidéos prises par des drones ou des caméras dans les rues pour catégoriser les comportements suivant ce que les autorités auront qualifié de suspect ou de anormal pour l'appliquer en temps réel après sur les caméras de surveillance. La phase de création de l'algorithme a consisté à apprendre à ce logiciel à reconnaître les situations. Le logiciel a été nourri, doté d'un volume immense de données, de vidéos, d'images, etc. Et ensuite, le constructeur, sur demande de la police, associe une règle, situation normale, situation anormale, et ça crée un gigantesque système de ciblage, d'anomalies, afin d'automatiser le travail de la police. Et en fait, pourquoi cette mobilisation? Parce qu'il s'agit vraiment d'un réel changement d'échelle, de dimension de la surveillance et de l'industrialisation du travail d'image, pour démultiplier les notifications, interpellations, etc., guidées par cette intelligence artificielle. Alors, la VSA ou la reconnaissance faciale repose sur les mêmes algorithmes. Parce qu'on sait qu'à la mairie de Paris, par exemple, pour les JO, ils ont dit « Oui, on veut bien, on est d'accord pour la VSA, pas pour la reconnaissance faciale. » Mais en fait, c'est la même source de données, c'est la même chose. Ce sont les mêmes algorithmes d'analyse d'images et de surveillance biométrique. La seule différence, c'est que la première, elle isole et reconnaît des corps, des masses, des mouvements, des objets. Là où la seconde, elle détecte un visage. Ce sont généralement les mêmes entreprises qui développent les deux technologies. Par exemple, la start-up française 2-1 est d'abord lancée sur la détection d'émotions, a voulu la tester dans les tramways niçois avant d'expérimenter la reconnaissance faciale ailleurs et notamment pour les supporters de football à Metz, on s'en souvient. Finalement, l'entreprise se concentre maintenant sur la VSA et elle veut évidemment vendre tout ça à plusieurs communes de France. Bref, c'est une technologie, une technique biométrique intrinsèquement dangereuse et ce qu'on se dit, c'est que l'accepter, c'est ouvrir la voie à des pires outils de surveillance. Alors, le texte comporte 11 articles, le texte de loi JO24, qui ont été considérés par le Conseil d'État comme, je cite, « susceptibles de s'appliquer à d'autres situations que les jeux, et ce, de façon pérenne ». Ça veut dire que personne n'est dupe sur le fait que, soi-disant, ça serait simplement parce que les Jeux Olympiques, c'est vrai, ça va faire venir beaucoup de monde, ça va être dangereux, donc il faut faire attention. En fait, non, tout le monde sait très bien que non. Le CNB, le Conseil National des Barreaux, a également, bien entendu, fait connaître son opposition à tout ça. Mais pour ça, pour autant, l'article 7, tranquillement, dénoncé donc là c'est hier par la Quadrature du Net et par d'autres personnes d'ailleurs avant eux, mais en tout cas eux ils concentrent ça pour une mobilisation. Ce texte a déjà été voté par le Sénat. Il va arriver à l'Assemblée nationale dans quelques semaines, courant mars, et vraisemblablement on ne sera pas trop pour le combattre et faire rejeter l'article. Alors, je cite là le texte de la Quadrature du Net, voulu de longue date par le gouvernement et fortement poussé par la police et le marché grandissant de la sécurité privée. Ce texte vise à donner une base légale à une technologie déjà présente dans les villes de France. Il ne s'agit pas d'une simple évolution technique, mais vraiment un véritable changement de paradigme. À travers des algorithmes couplés aux caméras de surveillance, ces logiciels détectent, analysent, classent nos corps, nos comportements dans l'espace public. Le projet derrière, traquer des comportements soi-disant suspects, éradiquer dans la rue des actions anodines mais perçues par l'État comme nuisibles ou anormales. Ces outils de surveillance sont intrinsèquement dangereux et ne peuvent être contenus par aucun garde-fou, qu'il soit légal ou technique. Les accepter, c'est faire sauter les derniers remparts qui nous préserve d'une société de surveillance totale. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments-là dans la page de campagne de la Quadrature du Net sur leur site, laquadrature.net. ILL propose plusieurs moyens d'action pour les prochaines semaines, par exemple d'appeler, les députés, ils aiment bien maintenant quand on dit ça, appeler les députés pour les convaincre de voter contre l'article 7, faire pression sur la majorité présidentielle et les élus qui pourraient changer le cours du vote, envoyer des mails, organiser des réunions publiques, en parler en tout cas, et notamment dans les, voilà, lire les articles et en parler sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait une mobilisation assez forte, puisque ces choses-là, c'est pas nouveau, on le sait, hein, ça a déjà été beaucoup travaillé. Et devinez quoi, comme pour beaucoup d'autres sujets, les populations qu'on pourrait dire des populations laboratoires, avec guillemets, sont, allez, devinez. Mais qui ? Ben oui, bien sûr, les étrangers, les étrangères, les personnes qui fuient aux frontières, qui fuient un pays, une situation impossible, des dangers. Et c'est évidemment sur elles qu'ont été travaillés et améliorés ces outils de surveillance avec la VSA. Les JO, c'est donc évidemment un argument massu pour faire peur au vu du nombre de personnes que ça va faire déplacer. Noémie Levin, de la Quadrature du Net, précise « C'est hyper politique. Si j'ai envie de faire trois fois le tour d'un pâté de maison, j'ai le droit. C'est un outil qui va marquer dans le marbre ce qui avait déjà cours dans les politiques publiques. Et les personnes qui vivent dans la rue seront notamment stigmatisées. » Au-delà, c'est également un marché économique de la data qui en tire un gros avantage. Et nous autres qui sommes déjà parfois comme des données sur pattes, avec nos téléphones, etc., on le sera encore plus à chaque fois que nous traverserons ou occuperons l'espace public. Libre ? Vous avez dit libre ?
Écoute, merci Isa. On va quand même rappeler aussi que les JO, c'est Paris, mais pas que à Paris. Hein, c'est aussi en Seine-Saint-Denis, et notamment à Saint-Denis. Et donc, mon collègue sur le salon web, alors on est tous les deux dionysiens, c'est résident à Saint-Denis, et il dit qu'à Saint-Denis, on va bien se régaler avec la VSA. Et nul doute, évidemment, que cette vidéosurveillance restera malheureusement après les JO. Donc,
ben voilà.
Le site de la Quadrature du Net, c'est donc laquadrature.net.
Oui.
Antanac, c'est antanac.com. Et en plus, vous êtes nos voisines, donc au 18 oui. Rue Bernard Dimet, donc dans le 18e arrondissement de Paris.
Absolument.
Mais je te remercie,
merci.
Isa. Bonne
merci
fin de journée.
Toi. Merci à vous.
Alors, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Drupal, un logiciel libre pour créer des sites web et également, évidemment, de la communauté. Nous allons écouter en attendant Solenopsis, excusez-moi, par Radio Déserte. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Solnopsis par Radio Déserte, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
On va maintenant passer au sujet principal du jour. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter donc sur Drupal, un système de gestion de contenu, bon, un logiciel libre pour créer des sites web, et on va parler pas que de la technique, évidemment, on va parler du projet également. Donc nos invités du jour, Marine Gandhi, présidente de l'association Drupal France et Francophonie. Bonjour Marine.
Bonjour.
Et Selou Diallo, secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie. Bonjour Selou.
Bonjour.
Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit en appelant au 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, libre à vous. Alors on va commencer tout simplement par une petite question de présentation personnelle, donc on va commencer par Marine Gandhi.
Oui, bonjour. Donc comme tu l'as dit, je suis la présidente actuelle de l'association francophone Drupal. Dans la vie, j'ai été dev sur le langage PHP pour les personnes à qui ça parle. Et maintenant, je suis devrel, donc je fais plus des relations avec la communauté des devs dans une entreprise qui s'appelle Platform SH, qui est née de Drupal d'ailleurs. Donc j'ai continué à garder Drupal dans mon parcours professionnel. Et sinon, je suis passionnée par plein d'autres choses, dont les chats, Batman et le logiciel libre.
Bon, bah très bien, ça, c'est un bon combo, ça. C'est Lou.
Alors, moi, je suis Selou Diallo, donc je suis développeur Drupal et je suis secrétaire de l'association Drupal France et Francophonie. Et je suis très passionné par les logiciels libres depuis un moment, donc je suis contributeur OpenStreetMap, la cartographie collaborative mondiale, et j'ai longtemps aussi travaillé à Montpellier avec des associations de libre comme Montpellier. Et actuellement, je travaille comme développeur Drupal dans une ESN, une entreprise de services numériques, et je suis en mission chez la Banque de France.
Non, bah très bien, donc on en reparlera tout à l'heure quand on parlera effectivement est-ce qu'on peut travailler professionnellement avec du Drupal et quel type de structures organisationnelles peuvent utiliser du Drupal à la Banque de France, c'est très intéressant. On salue concernant Montpellier nos amis donc de Montpellier Libre et notamment Pascal Arnoux qui organise beaucoup de choses sur Montpellier. Alors on va commencer par une question, un peu sur l'histoire de Drupal, mais déjà avant de venir sur l'histoire de Drupal, comment vous définissez Drupal en une phrase ou deux?
La question piège.
Marine.
Alors, Drupal, c'est un logiciel de gestion de contenu, comme tu l'as dit. Donc, en anglais, c'est Content Management System. Donc, vous verrez souvent l'acronyme CMS. Donc, ça vous parle pas forcément, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut créer un site et gérer des contenus sans savoir coder. Après, on a une interface avec un éditeur de texte, un peu comme des documents. Et on peut publier facilement des articles et des pages. Je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas Drupal, vous connaissez peut-être WordPress, qui est le plus gros CMS open source basé sur le langage PHP aussi, qui existe actuellement. Donc ça, c'est le même type de système. Et je pense que c'est déjà pas mal pour une première approche.
Oui, c'est tout à fait mal pour une première approche. Alors Drupal, donc, ça permet de créer notamment des sites web, et ce n'est quand, comment ? Est-ce que c'est une initiative individuelle, une association ? Est-ce qu'il y avait un besoin ? En termes de date, ça n'est quand Drupal ? C'est Lou.
Oui, alors Drupal est né depuis, à la base, c'est depuis 2000 en fait. Le créateur de Drupal, c'est Driss Butaret. Il a créé Drupal quand il était étudiant à l'université. Donc, ils avaient eu besoin d'avoir une connexion Internet à l'université et ils ont réussi à faire un pont avec une connexion sans fil. Et le besoin s'est fait sentir de communiquer entre, de créer un forum de discussion. Donc, Drupal Drupal est né à partir de la création de ce forum de discussion et après, maintenant, vers les 2001, il a mis à disposition de la communauté le code source de ce forum de discussion qui est devenu plus tard Drupal.
D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, initialement, c'était pas un logiciel pour créer des sites web généralistes. C'était plutôt un site pour gérer un forum de discussion et c'était pas sous licence libre dès le départ. C'est venu après, donc 2001, donc 2000, la création de Drupal.
Oui, c'était à l'université, à la fac, c'était entre les étudiants. En
fait, donc c'est un projet étudiant qui était dans le cadre de leur étude ou est-ce que c'est un projet étudiant qui faisait parce qu'ils avaient envie de le faire?
C'était plutôt pour échanger à la fac.
D'accord.
pour échanger sur leurs notes, voilà, c'était juste un forum de discussion entre les étudiants. Et plus tard qui est devenu, vous savez, les gros projets souvent commencent très petits et c'est comme ça que Drupal est devenu en fait un logiciel libre. Il a mis le code source à disposition et il faut aussi ajouter que Drupal est un logiciel libre, un vrai oui. logiciel libre qui respecte les 4 degrés de liberté.
Alors, rappelle les 4 degrés de liberté, parce qu'on le fait pas souvent finalement dans l'émission. Alors c'est quoi les 4 libertés?
Les 4 degrés de liberté, c'est d'abord la liberté d'utiliser, de l'exécuter, de le modifier, de le copier et de le redistribuer aux autres communautés. Donc c'est globalement, ce sont les 4 degrés de liberté de logiciel.
Voilà, c'est l'utilisation, l'étude, la modification, la redistribution.
Et la redistribution.
Donc à partir de 2001, donc Drupal est un logiciel libre diffusé. Et donc est-ce que c'est tout de suite qu'il va y avoir des personnes qui vont contribuer? Ou est-ce que ça va prendre un peu plus de temps pour commencer à avoir de plus en plus de personnes qui vont contribuer à ce projet? Si vous savez ou si vous savez pas, vous me dites, hein, parce que...
Bon, je pense que c'est venu au fur et à mesure.
Ouais,
de toute façon, oui. Il faut d'abord peut-être vulgariser pour que ça soit bien connu. Et je pense que c'est venu au fur et à mesure.
Ouais. D'accord.
Quelque chose qu'on n'a pas forcément signalé, c'est que c'est un projet européen, puisque Driss est belge.
Oui, on l'a pas dit. Oui.
Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est important et qui explique pourquoi Drupal est particulièrement présent en Europe, et notamment au niveau des administrations, etc. Comme tu le disais, on reparlera plus tard du type de projet, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans son évolution. Et donc effectivement, là, sur l'historique précis de comment c'est devenu populaire, j'avoue que je ne sais pas forcément, j'étais pas là. mais clairement, c'est devenu très populaire à partir surtout de Drupal 7, qui était la version la plus aboutie, on va dire, la plus confortable, en sachant que là, on est à la version 10 actuellement, qui est sortie en décembre.
Alors, j'aurais même dit Drupal 6, peut-être.
Drupal 6, c'était déjà vraiment... ça a vraiment explosé avec Drupal 7.
C'est quelle période, à peu près, tu te souviens?
Moi, j'ai commencé avec Drupal 7. Donc, il y a 7-8 ans, c'était déjà bien installé. Mais c'est vrai que ça a duré à la sortie exacte de Drupal 7.
Non, là, mais bon, ça donne que j'ai trouvé une idée.
Mais ça se retrouvera facilement. Mais par contre... Là, actuellement, il y a encore la moitié à peu près des sites Drupal qui sont encore sur du Drupal 7. Pour dire que c'était vraiment une version palier, quoi.
Alors, oui, il y en a même certains qui sont encore en Drupal 6, mais on va pas balancer les noms. Si vous cherchez bien, vous saurez tout trouver. Et donc, parce que tu as dit que la dernière version, c'est la 10 ou la 11?
La 10, qui vient de sortir là en décembre.
Et aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé de WordPress pour les gens qui connaissent pas forcément Drupal. Je crois me souvenir que si j'avais regardé dans une page, que Drupal, c'était le troisième système de gestion de contenu utilisé aujourd'hui, derrière WordPress et Joomla, c'est ça? Ou ça a changé un peu, ça?
Là, les chiffres les plus récents, c'est plutôt le sixième. Parce qu'en fait, on compte des CMS dédiés au e-commerce, comme Shopify, par exemple.
Ah, ok.
Donc, en gros, Drupal, c'est 1,2% du web.
D'accord.
Ce qui correspond à 1,8% des CMS, enfin, des sites qui sont faits avec des CMS.
D'accord.
Donc derrière WordPress, c'est beaucoup plus petit, parce que WordPress, c'est presque un quart du web,
25?
Bientôt 40%
à 40.
Du web. Ouais. Donc c'est assez énorme. Ça dépend les chiffres, mais c'est entre 30 et 40%. Ouais.
D'accord.
Donc c'est pas du tout le même type de public, ce qui explique aussi que la part ne soit pas la même. Mais voilà, ça, donc ça reste un CMS populaire, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouveaux types de CMS qui sont apparus, et donc la concurrence est un peu rude.
D'accord, ok. Donc les chiffres que j'ai vus devaient dater de quelques années, effectivement. Alors, je regarde mes notes, c'est 2018 en fait.
Ouais, bah chiffres, après, donc, c'est vrai que si on compte pas le e-commerce, je pense qu'effectivement, là, cette position. Mais je sais pas, là, par rapport à Joomla actuellement, qui me semble un peu en perte de vitesse, mais j'avoue que je connais très peu cette communauté, donc je veux pas m'avancer.
J'étais un peu surpris de voir Joomla deuxième, mais bon, c'est pareil, que toi, je connais un très mal, donc.
Je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire quoi, Drupal, mais j'en ai jamais entendu parler, et pourtant, c'est quand même pas mal de monde qui s'en sert, donc.
Oui, tout à l'heure, on citera, je pense, des sites importants qui utilisent Drupal. Pour finir un peu sur l'historique, donc on voit déjà que c'est un logiciel libre qui existe depuis très longtemps, à partir de 2000-2001. On est aujourd'hui en 2023, donc ça se développe. Alors il y a des logiciels de gestion de contenu qui sont toujours développés uniquement par des bénévoles globalement. Je vais prendre un exemple, Spip, vu qu'on en a parlé dans l'émission Libre à vous, dans l'émission 123, donc sur libreavoue.org/123. Par contre, côté Drupal, on y reviendra un peu plus en détail tout à l'heure, mais sur l'histoire, le fondateur, lui, a ensuite créé une société, c'est ça, pour participer au développement, pour faire du service.
Oui, bien sûr, oui. Acquia, en fait, c'est la société qui porte un peu Drupal, surtout côté business. Mais il faut quand même souligner l'importance de la communauté Drupal pour vraiment participer à développer le logiciel beaucoup plus. Mais je pense que c'est deux entités complètement différentes. Acquia, elle est là, elle propose ses services, elle fait son business, à côté. Mais voilà, la communauté, elle est là, elle est présente. Et elle fait beaucoup plus dans Drupal.
D'accord, donc il y a les deux, en fait, il y a une entreprise qui participe au développement et il y a une communauté très forte qui contribue soit au développement direct de Drupal, soit des notions de modules dont on expliquera peut-être tout à l'heure.
Voilà, alors en fait, il y a même carrément une entité qui est la Drupal Association, donc qui est une association américaine en l'occurrence, qui est donc l'association Drupal Monde. Et des petites associations locales comme nous, par exemple, où il y a des associations par pays, notamment en Europe, on est assez nombreux. Et parfois, il y en a même plusieurs par pays, selon les structures d'associations et le fait de pouvoir collecter ou non de l'argent. Par exemple, en Allemagne, voilà, il y a deux structures parce que sinon, c'est compliqué. Mais oui, la communauté, c'est plus de 100 000 personnes. J'ai recherché un peu des chiffres. Merci Nicolas, notre trésorier, qui a fait ce gros travail de préparation pour nous. On a plus de 1500 contributions par mois. Donc ça, c'est beaucoup des personnes individuelles, voilà, des bénévoles, comme on dit, qui juste prennent sur eux de rendre le logiciel plus sécurisé, plus performant, avec des nouvelles features, etc. Des nouvelles fonctionnalités plutôt, pardon. Mais oui, donc il y a l'association qui essaye de pousser le développement de Drupal. Il y a les bénévoles qui peuvent ou non adhérer aux différentes associations. Et Acquia, qui est effectivement une entreprise et qui finance beaucoup de choses. Notamment, il y a une équipe qui s'appelle la Drupal Acceleration Team, la DAT, qui va faire des travaux de fond pour essayer d'améliorer un peu Drupal sur des choses sérieuses comme l'infrastructure, etc.
D'accord, ok. Bon, on va un petit peu là-dessus tout à l'heure. Vas-y.
Je note juste qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui financent des choses dans Drupal. Donc, Acquia, forcément, c'est l'entreprise de Driss, donc tout le monde sait ce que c'est, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres entreprises qui sponsorisent Drupal en donnant à la Drupal Association, par exemple, ou en finançant du temps de contribution sur le temps de travail de leurs développeurs et développeuses. Donc, voilà, c'est juste pour dire l'écosystème est assez équilibré. Il y a des gens qui donnent individuellement du temps ou de l'argent et des entreprises qui font de même.
Oui, c'est important ce que tu précises. Effectivement, c'est une façon de contribuer pour les entreprises qui utilisent Drupal. Finalement, si à un moment, elles ont un besoin fonctionnel qui peut bénéficier à tout le monde, de le reverser dans le Drupal, dans la version officielle du logiciel, de manière à ce que ce soit intégré et que ça profite effectivement à tout le monde. Ça, c'est une façon importante de contribuer, et je crois d'ailleurs que sur le site de l'association Drupal France, drupal.fr, il y a une liste de prestataires qu'on peut retrouver, même si on en parlera tout à l'heure, d'entreprises spécialisées sur Drupal. Mais juste avant ça, on va passer au deuxième point, sauf si vous voulez rajouter quelque chose sur la partie historique. Non. Alors, le deuxième point, c'est, bon, ok, Drupal, donc c'est un logiciel libre qui permet de créer des sites web, mais globalement, comment ça fonctionne? C'est quoi les principes de base de Drupal? Sur quoi ça repose? Quelles compétences sont nécessaires? Voilà. Essayez d'expliquer un petit peu, voilà, donner une idée. Est-ce qu'il faut être une personne super experte en PHP? Tout à l'heure, tu as dit, c'est un langage de programmation. Ou est-ce qu'au contraire, c'est accessible à tout le monde? Voilà. Comment ça fonctionne, en fait? C'est le.
Alors, Drupal, en fait, Drupal est quand même, je peux dire, Drupal est accessible à presque tous les profils. Mais c'est vrai que le CMS s'est beaucoup professionnalisé ces derniers temps. Donc, en fait, il y a deux niveaux dans Drupal. Il y a la partie site building. Donc là, il n'y a pas de code.
Alors, explique-moi ce que c'est que site building.
Site building, c'est la construction de sites. Tout ce qui est construction de contenu, de type de contenu, de construction de pages. Donc, tout ça se fait en back office. Donc au niveau back-office du logiciel, donc vous créez vos contenus, vos champs, donc tout ça c'est du clic-clic, voilà, avec des modules que l'on utilise. Ça c'est la partie site building. Et à la partie aussi développement, où il faut avoir vraiment des compétences quand même au niveau développement, donc Drupal est fait avec du PHP, donc il faut avoir des compétences avec du PHP.
Alors si je comprends bien, je crois que Marine veut réagir, rien qu'avec, si on veut juste créer un site web, on peut s'en sortir juste avec, en fait, installer Drupal et ensuite configurer son site web, ses pages, ses champs avec une interface qui permet avec des boutons, des clics, etc. Marine?
Oui, voilà, exactement. En fait, ce que je voulais rajouter à ce qu'a dit Célou, c'est simplement qu'aujourd'hui, on appelle ça une approche no-code ou low-code. C'est un terme qui est devenu très à la mode, mais en fait, c'est vraiment ce que fait Drupal depuis le début, c'est-à-dire proposer effectivement une interface et il suffit de cliquer pour pouvoir paramétrer selon ses préférences tout ce qui se passe sur le site et on n'a pas besoin de savoir coder. Alors après, comme l'a dit Célou aussi, c'est vrai que ces dernières années, ça s'est pas mal professionnalisé. Donc c'est un peu plus difficile, on va dire, d'installer un Drupal 10 qu'un Drupal 7, par exemple, si on ne connaît pas un petit peu des bases de code. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'hébergeurs, par exemple, qui proposent des modules en un clic. Donc on peut installer directement sur un hébergement Drupal et après on a effectivement accès à la configuration. Donc c'est voilà, il y a des choses à savoir, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire sans être d'un métier du développement.
C'est-à-dire que quand tu parles d'hébergeur, on peut imaginer quelqu'un qui a envie de se créer un site web, par exemple, pour son association, peut aller voir un hébergeur, alors, je sais pas à quel tu penses, mais type Gandhi, Online,
ouais,
etc.
OVH, par exemple.
Et là, pour certains, il y a une offre de Drupal qui est donc préinstallée et qui ensuite, donc, le seul travail, entre guillemets, qui reste important, hein, c'est d'adapter le contenu à son projet, c'est ça?
Voilà. Après, ça pose plein de questions parce que nous, on vient du développement, donc forcément, on ne recommande pas forcément de faire ça, puisqu'il faut quand même pouvoir faire ce qu'on appelle du versionning. Donc, versionner son site, c'est important. Donc, c'est garder un historique de tout le code qui a été modifié pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Et aussi, bien sûr, des sauvegardes de la base de données. Ça, c'est très important puisque donc c'est un CMS, le but c'est d'avoir du contenu et le contenu il est dans la base de données. Voilà, il y a quand même des choses à savoir, mais ça sera vrai pour, j'ai envie de dire, n'importe quel type de site.
Ouais. Et si on veut l'installer soi-même, tu dis que c'est plus compliqué aujourd'hui d'installer Drupal 10 soi-même. Pour quelle raison en fait?
Oui, alors ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à partir de Drupal 8, il y a eu un énorme changement de structure. Donc c'est vrai que la communauté était beaucoup plus hétéroclite, on va dire, avant. Où des gens qui connaissaient pas forcément très bien le code arrivaient quand même à, je vais dire, bidouiller, mais contribuer du code et faire des choses un peu par-ci par-là. Et à partir de Drupal 8, en fait, on est passé sur un framework qui s'appelle Symfony, qui est un framework français du langage PHP, qui est extrêmement populaire actuellement dans le monde.
Est-ce que tu peux juste expliquer peut-être ce qu'est un framework?
Oui, on va dire que c'est une boîte à outils, en fait. D'accord. C'est comme un kit qui permet de démarrer plus vite sans avoir à chaque fois à réinventer la roue. Donc là, on a déjà des roues et on les assemble un peu comme on veut et on peut s'appuyer sur cette structure pour construire son site. Et en fait, c'est exactement ce qu'a fait Drupal. Ils se sont appuyés sur des éléments de Symfony, donc des composants, pour reconstruire certaines parties du logiciel. Sauf que du coup, c'est quelque chose qui est très, on va dire, poussé techniquement, et ça demande des connaissances beaucoup plus avancées pour rentrer dedans, finalement. Et donc, notamment, on est passé aussi sur un outil qui s'appelle Composer, Et donc, maintenant, toutes les installations de modules, et donc on reparlera plus tard de ça, bien sûr, mais toute l'installation de Drupal se fait via ce gestionnaire de paquets, ça s'appelle Composer. Et donc, ça implique de savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, de lancer quelques lignes de commande sur un terminal, sur un ordinateur, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Mais la communauté travaille à rendre à nouveau simple l'installation de Drupal. J'imagine qu'on pourra préciser plus tard tous ces détails.
C'est où tu voulais réagir ?
Oui, moi en fait, là c'est plutôt comme l'a dit Marine, Drupal 8 est venu, en fait le Drupal 8 est venu avec un changement un peu à 360 degrés au niveau de l'API, donc avec non seulement de nouveaux concepts, surtout du PHP orienté objet et tout ça, donc ce qui fait que il faut quand même avoir certaines compétences dessus, mais au niveau back-office, il y a beaucoup de choses qui sont faisables
Que tu entends par le back-office?
Le back-office, c'est la face cachée un peu.
D'accord.
Parce qu'il y a le front, tout ce que l'utilisateur voit à partir du navigateur, et il y a le back-office, c'est la partie cachée de l'iceberg, en fait.
D'accord.
Où on configure tout le site, on crée nos champs, on configure tous les contenus. Et en fait, avec Drupal, on peut tout faire avec Drupal. On peut faire beaucoup de choses avec Drupal, rien qu'avec du site building. Mais pour personnaliser certaines choses, il faut vraiment des modules custom. Il faut vraiment faire des développements personnalisés, en fait.
Alors justement, c'est une bonne. Bon point que tu abordes, parce que dans Drupal, alors nous on connaît un peu Drupal à la prise, parce que notre site est actuellement sur Drupal, et effectivement il y a, pour que les gens comprennent bien, effectivement il y a la base du logiciel, et à côté il y a plein de modules qui existent, qui sont soit développés par la communauté, soit qui sont rajoutés, et c'est vrai que c'est une des forces, et sans doute peut-être une des faiblesses de Drupal peut-être, ou d'autres outils qui ont le même système, c'est cette pléthore de modules qui pose des fois la question de savoir comment on choisit le module qui va nous permettre d'avoir telle fonctionnalité, et que va devenir ce module en cas de mise à jour, de version de Drupal. Moi, dans l'historique que j'en ai de Drupal, c'était vraiment l'un des points qui nous paraissait vraiment compliqué à suivre. Le choix du module, est-ce que le module va pouvoir évoluer en fonction des versions de Drupal? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a toujours cette difficulté-là?
Oui, effectivement, en fait, comme tu l'as dit, Drupal, il y a le cœur de Drupal, le Drupal cœur, Core, ouais. Donc il y a les modules du cœur, et il y a les modules contribués qui sont développés par la communauté. Et il y a aussi les modules custom que tu peux faire quand tu as un besoin spécifique. Donc au niveau des modules contribués, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modules. En fait, en fonction du besoin, pour un module contribué d'abord, il faut d'abord voir l'utilisation du module, les statistiques d'utilisation. Donc tout est dans la documentation, dans Drupal.org. Donc il faut d'abord voir si le module est beaucoup utilisé par la communauté. Il faut voir si le module est en fait au niveau sécurité, en fait si le module est pris en charge au niveau sécurité, et aussi voir au niveau en fait issu. Il y a beaucoup de paramètres en fait qu'il faut prendre en compte avant de choisir un module contribué, parce que ça ne sert à rien de développer un truc à côté alors qu'il y a un module contribué qui le fait. Ça sert à rien de réinventer la roue, en fait. Donc les modules contribués quand même contribuent vraiment aux besoins des constructeurs de sites sur Drupal. Et dernièrement l'équipe Drupal en fait a commencé un peu à sortir certains modules du cœur, en fait, pour un peu alléger un peu le noyau Drupal, pour ne pas avoir plein de modules dedans, et intégrer d'autres modules qui sont quand même très importants, comme Views, qui a été intégré dans le cœur depuis Drupal 8.
le module Views, c'est ça?
Views, ouais, ah, Views, c'est les vues. Ouais, vues, voilà, c'est vues. C'est un module essentiel dans, voilà, indispensable.
Alors, explique-le, parce que je pourrais l'expliquer, mais j'ai peur de me tromper.
En fait, Views, c'est un module, c'est comme Vue. C'est ce module-là qui permet, en fait, de construire les pages, de placer les contenus en fonction, voilà, en fonction du besoin. Par exemple, vous pouvez placer tes contenus en fonction, par exemple, si vous voulez, par exemple, dans un blog, vous voulez, par exemple, afficher les 5 dernières actualités ou, je sais pas moi, ou afficher des contenus, ouais, par exemple, sous forme de teaser ou de flux ou des vues de mode, quoi, en fait.
Ouais, c'est une façon d'afficher, en fait, du contenu par rapport à un certain nombre de critères. Les personnes qui nous écoutent, si elles veulent avoir une idée, on va envoyer sur un site Drupal. Vous allez sur april.org, hein, c'est le site de l'association, et vous allez voir dernier communiqué, dernières actualités. Et ben c'est construit à partir de Views.
C'est Views qui permet de faire ça. Et il peut encore faire beaucoup plus que ça.
D'accord.
Beaucoup plus.
On peut résumer en disant que c'est un constructeur de pages.
Voilà, c'est un constructeur de pages très très puissant.
Voilà. Parce que ça permet de mettre beaucoup de filtres et de personnaliser vraiment l'affichage. De récupérer beaucoup de choses, mais donc voilà, ça fait partie effectivement des fonctionnalités qui étaient avant donc dans les modules contribués et qui est entré maintenant dans le cœur de Drupal. Donc quand on installe Drupal, ça change le cœur.
Voilà. Donc quand on a, ce que ça change, donc ce qui fait que quand on installe Drupal, on a ce module Views mm-hmm. par défaut. Et est-ce que ça change le fait qu'aussi il va être maintenu par défaut par rapport aux versions qui vont venir de Drupal?
Exactement. C'est vrai qu'on n'a pas le même engagement sur les mises à jour quand c'est des fonctionnalités qui sont dans le cœur, puisque là, du coup, c'est vraiment l'équipe Drupal, ce qu'on appelle les release managers ou donc toutes les personnes qui gèrent vraiment le cœur de Drupal, ainsi que les personnes qui sont payées à plein temps, hein, pour faire ça, qui, du coup, ont un engagement de maintien là-dessus, contrairement à des modules contribués qui, du coup, c'est des personnes bénévoles qui les ont créés, qui les mettent à disposition et qui les maintiennent. Et donc voilà, ça dépend après de la disponibilité des personnes individuelles.
D'accord.
Donc ça fait une différence, effectivement.
Ok. T'as employé le mot puissant, je crois. Après la pause musicale, on parlera justement peut-être de la puissance de Drupal versus la complexité peut-être de Drupal. Savoir à qui il s'adresse, en fait, à la fois aussi en termes de public, les choix. Mais on va d'abord faire une pause musicale. Donc, oui, je sais, j'ai pas prévu la régie, mais la régie est prête. En plus, ils sont deux aujourd'hui. Il y en a un qui est assis, qui fait ouh, puis l'autre qui est debout, et voilà. Donc, nous allons écouter Vax in the Morning par Martin Smith. Alors, excusez-moi pour les prononciations. On se retrouve dans environ 3 minutes 20. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. We'll be right back.
nous venons d'écouter Vaccine the Morning par Marcin Smith. Disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Donc nous allons poursuivre notre discussion donc, qui porte sur le système de gestion de contenu Drupal qui permet donc de créer des sites web avec Marine Gandhi et Selou Diallo. Donc on va poursuivre un petit peu sur le sujet sur lequel on était juste avant, notamment, alors je disais juste avant la pause musicale que Marine, tu avais employé le terme puissant et ça me faisait penser aussi à complexité parce que Drupal permet, je crois que c'est Selou l'a dit tout à l'heure, de faire à peu près tout ce qu'on veut, mais quand on peut faire tout ce qu'on veut, des fois on peut faire, ça peut être très compliqué à mettre en œuvre. Alors à quel type de projet s'adresse Drupal? Quel type de structure finalement ce site web peut, enfin ce système, ce logiciel de création de site web peut convenir?
Alors, la typologie de projet et de clients qu'on peut avoir avec Drupal est assez variée. En France, on a beaucoup de sites du gouvernement, des institutions françaises qui utilisent Drupal. Que je peux dire en un mot, c'est que Drupal, c'est bien pour des gros projets. Si on a besoin d'avoir la main sur des détails de gestion fine, c'est très bien. Alors, d'aucuns diront usine à gaz. Donc, c'est vrai que c'est un reproche qui est souvent fait à Drupal, c'est d'avoir trop d'options. Donc, effectivement, c'est peut-être moins indiqué pour un tout petit projet. Si on n'a pas besoin de fonctionnalités avancées, c'est peut-être pas très intéressant de passer par Drupal. Mais en réalité, c'est un outil qui est très adapté aussi bien pour des blogs. Bon, par exemple, mon blog est sur du Drupal, hein, tout bêtement. Je reste sur ce que je connais. Aussi bien que pour voilà, des sites d'institutions, des grandes écoles, des universités, beaucoup. C'est vrai que, par exemple, en Australie, ils ont même leur propre distribution de Drupal pour les sites du gouvernement, qui s'appelle GovCMS. Et puis après, beaucoup de sites de grands comptes aussi. Donc voilà, des grandes entreprises du CAC 40, il y en a beaucoup qui sont sur du Drupal. Genre, je vais peut-être pas citer 12 noms, mais par exemple, je sais que Nestlé a énormément de sites, des choses comme ça. Et aussi, beaucoup de sites associatifs. Donc il y a beaucoup
de petites associations ou de grosses associations?
D'un peu tout, en fait. Mais effectivement, il y a un aspect dont on n'a pas forcément parlé, mais Drupal, c'est très bien pour faire des usines à sites, ce qu'on appelle une usine à sites, c'est en gros de pouvoir gérer sur une même base de code une multiplicité de mini-sites. Et donc, je pense par exemple à un exemple, c'est la Banque Alimentaire. Banque Alimentaire qui a du coup, par exemple, un site institutionnel et puis après, ils ont un site par ville, enfin par région. Et donc, ça marche très bien pour du Drupal, en l'occurrence. Donc, voilà, des grosses associations comme ça. Je pense aussi à la SNSM, les sauveteurs en mer. Et donc, après, on a aussi des marques de luxe, des sites éditoriaux, des magazines. Enfin, c'est assez varié, en fait.
D'accord. Alors, quelles compétences il faut est-ce qu'il faut une équipe technique quand même assez forte? Déjà, première question, est-ce qu'il faut une équipe technique assez forte pour Drupal? Moi, c'est le sentiment que j'ai, franchement. C'est que, comme tu disais Marine tout à l'heure, c'est une usine à gaz, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de trucs. Par rapport à d'autres outils dont la prise en main est beaucoup plus rapide, il faut quand même investir. Donc, il faut soit avoir des équipes qui ont du temps, soit qui ont des compétences. Ou est-ce que finalement, c'est une mauvaise image que j'ai de Drupal? C'est doux.
Bien sûr, il faut, et je te donne bien raison, il faut quand même une équipe technique, une très bonne équipe technique pour Drupal, surtout pour des gros sites. Et ce qui fait aussi, c'est que par rapport aux demandes, en fait, le constat que j'ai, le constat qui est là actuellement, par rapport aux demandes sur le marché, il y a moins de compétences Drupal sur le marché. C'est-à-dire, les développeurs Drupal sont très recherchés actuellement dans le marché et pour développer un site Drupal, en fait, il faut vraiment une très bonne équipe bien mise en place, parce que en fait avec Drupal, il y a, comme je l'ai dit, il y a le côté back office back et il y a le côté front aussi. Donc il faut avoir une très bonne équipe sur ces différentes.
Ça veut dire donc que pour des personnes qui cherchent aujourd'hui du travail dans le libre et qui aiment faire du web, se spécialiser un peu sur Drupal, ça va permettre de trouver du travail finalement.
Ah oui,
il manque des profils.
C'est très recherché sur Drupal. C'est beaucoup recherché. Moi, je sur LinkedIn, je sais pas. Dans la semaine, je reçois plus de 20 messages pour me proposer des missions.
Alors, LinkedIn, c'est le site de, réseau social autour de l'emploi.
Autour de l'emploi, oui.
Ah oui, donc tu reçois, alors que t'es en poste, comme tu l'as dit, tu reçois quand même une vingtaine de demandes
chaque
semaine.
Tout à fait. Bien que je suis en poste, je reçois tout le temps et voilà, je peux pas répondre à tout.
Excuse-moi,
j'en profite pour faire un petit clin d'œil à toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation supérieure. Si vous voulez proposer des cours de Drupal, c'est le bon moment et vous garantissez effectivement à vos étudiants des débouchés intéressantes. Parce que effectivement, le marché est très très demandeur de développement Drupal spécialisé. Et c'est vrai que là, dans le supérieur, il n'y a pas forcément grand monde qui propose des cours sur Drupal, alors que par exemple pour WordPress, ça existe. J'en ai moi-même fait à l'IUT.
D'accord.
Donc n'hésitez pas à nous contacter à l'association pour mettre en place un programme. On serait très très preneurs de ce genre de choses.
Alors vous allez sur drupal.fr pour proposer ça. Alors dernière question sur les compétences. Si effectivement un manque de développeurs et de développeuses professionnelles pour Drupal, j'imagine que du temps bénévole sur des associations qui n'ont pas de services informatiques ou qui n'ont pas de bénévoles informaticiens ou informaticiennes et qui vont faire appel à des bénévoles, ça va être très compliqué parce que finalement vous êtes déjà surchargé par vos activités professionnelles. Donc j'imagine bien qu'avoir des personnes bénévoles qui vont aider à mettre en place un site Drupal, ça va être très compliqué. Et ma question n'est pas totalement innocente, hein, parce qu'au côté de même l'April, qui est une association qui regroupe quand même quelques informaticiennes et quelques informaticiens, on a eu cette problématique-là. Il y a quelques années, hein, mais est-ce que ça existe toujours cette problématique de dire, tiens, moi je suis une association, je fonctionne que en bénévole, je vais arriver quand même à trouver des bénévoles qui vont nous aider sur du Drupal?
Oui. Alors j'ai deux choses que j'ai envie de répondre à ça. La première, c'est que effectivement, la communauté Drupal est très consciente du fait qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage. Enfin, vraiment, rentrer dans Drupal, c'est moins facile que sur d'autres CMS. Ça fait des années qu'on en parle dans la communauté. Tous les ans, il y a une grosse conférence qui s'appelle la DrupalCon, qui a lieu aux États-Unis et une en Europe. Et à cette occasion, Driss, le fondateur, donc fait toujours un petit état de Drupal. Et je crois que c'était déjà il y a 4 ans qu'il faisait ce graphe pour montrer effectivement qu'ils avaient fait un sondage sur la satisfaction des développeurs et développeuses à travailler avec différents CMS. Et on voyait que pour un niveau débutant, la satisfaction n'était pas terrible sur Drupal. Mais que dès que les gens commençaient à maîtriser un petit peu, ça devenait et de loin leur préféré. Et donc, nous, notre travail depuis quelques années dans la communauté, c'est d'essayer d'aplanir cette courbe au début pour qu'elle soit plus accueillante, en fait, pour les personnes qui découvrent. Donc ça, c'est un sujet qui est identifié dans la communauté, mais ça prend du temps parce que les ressources sont pas forcément toujours disponibles, surtout quand il s'agit de design et de choses comme l'expérience utilisateur. Ça, c'est des compétences qui sont un peu rares dans le monde de l'open source. C'est toujours un peu le parent pauvre. Mais voilà, il y a des choses qui sont mises en place, on pourra peut-être détailler plus tard. La deuxième chose, c'est que effectivement, il y avait une association qui s'appelait WebAsso, si je me trompe pas, qui était spécialisée là-dedans, qui a fermé il y a quelques temps. Donc, on connaît bien Alexane qui était présidente parce qu'elle a été au bureau de l'association Drupal France.
D'accord.
Donc je la salue. Et c'est vrai que ça, il y avait eu des compétences Drupal, des gens de l'association qui avaient mis du temps à disposition pour aider d'autres associations avec leur site, effectivement. Surtout que c'était bien à l'époque où justement on voulait migrer de Drupal 7 vers les dernières versions, et c'est pas des choses qui sont faciles à faire, surtout entre ces deux versions-là. Et c'est vrai que c'est sûrement plus dur de trouver des bénévoles Drupal que par exemple du WordPress, parce que juste la taille de la communauté n'est pas comparable. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui sont très passionnés par l'open source et par les valeurs qui sous-tendent ça. Donc on voit régulièrement, donc nous on a un outil, un chat, c'est Slack, c'est pas open source, mais on a une version associative gratuite et pas le temps de maintenir quelque chose, donc voilà, désolé. Mais en l'occurrence, c'est un lieu de vie qui est assez prisé finalement. On a pas mal d'échanges là-dessus et tous les jours, des gens posent des questions sur notre channel de support et trouvent des réponses. par des gens qui donnent de leur temps pour les aider. Et donc, parfois, on a déjà eu des associations qui nous ont contactés, des personnes qui ont pris sur elles de dire « Bon, bah, j'ai un peu de temps, je vais les aider. » Donc, c'est pas forcément incompatible. C'est pas parce que Drupal est moins facile d'accès qu'il n'y a pas une vraie communauté derrière. Au contraire, c'est ce qui fait sa force, en fait.
Ah bon, très bien, tu nous fais la transition, hein, parce que le temps file et... Non, mais c'est très bien, justement... Sur la communauté, parce que c'est aussi une des forces globales du logiciel libre. Alors, c'est pas vrai sur tous les logiciels libres, mais souvent, c'est assez vrai de la force de la communauté Drupal ou des communautés, parce que il peut y en avoir plusieurs qui fonctionnent différemment. Donc, bah, là-dessus, en fait, j'aurais envie de vous accueillir. Déjà, qu'est-ce que fait Drupal France, en fait, en termes de communauté?
On traduit en français. Drupal, non, alors je rigole, mais alors oui, Drupal déjà, oui. Premièrement, il faut savoir qu'une des grosses forces de Drupal notamment, c'est le fait qu'il est nativement multilingue, et donc n'importe qui peut contribuer aujourd'hui à aller traduire l'interface de Drupal pour que quand on l'installe, on puisse l'avoir dans sa langue. Et donc Célou peut en parler mieux que moi puisqu'il est très impliqué dans l'équipe de traduction.
Ben c'est
oui,
lui, donc.
Oui, effectivement, il y a une équipe traduction Drupal, traduction en français. Donc, c'est une équipe qui est chapeautée par l'association Drupal Français Francophonie. Et donc, dans cette équipe, on a en fait mis en place un glossaire qui en fait qui renferme des termes de traduction en français qu'on peut rencontrer dans Drupal et un certain nombre de bonnes pratiques qui ont été mises en place. Donc on organise des journées de traduction dédiées à la traduction. Donc ça peut être traduction de l'interface utilisateur de Drupal, traduction de modules, traduction de la doc, du guide utilisateur. Et souvent on fait une réunion aujourd'hui mardi justement à 18h30, on a une réunion de l'équipe traduction.
C'est une réunion en ligne?
Oui, une réunion en ligne.
Si vous voulez vous joindre à eux. Plus on est fou, plus on rit, parce qu'il y a toujours des choses à traduire. Au-delà de juste la traduction de Drupal, il y a effectivement une volonté, c'est pour ça que l'association s'appelle France et Francophonie,
oui, c'est ça, en fait.
De proposer du contenu Drupal en français, puisque tout le monde ne parle pas anglais à un niveau suffisant pour profiter un peu de toutes les ressources qui sont produites. Donc nous, on essaye de mettre à disposition de la documentation. On fait régulièrement des meet-up, donc des petites rencontres, où on a un ou plusieurs présentateurs ou présentatrices qui viennent nous parler d'un nouveau module qu'ils ont écrit, par exemple, ou de choses, des retours d'expérience, un gros projet, comment on a fait telle ou telle chose. Donc, en gros, on partage de la connaissance, on produit de la connaissance, et nous, donc là, surtout depuis le Covid, là au moins depuis 2 ans, tous les mois, on fait ces rencontres en ligne, qui sont ensuite disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, on a des vidéos pour pouvoir en profiter plus tard. Et là, cette année, on essaye de refaire aussi des rencontres en personne. Mais voilà, c'est principalement ça. Nous, on essaye d'animer la communauté et de proposer en fait un peu un soutien, on va dire, pratique et logistique à toutes les personnes qui ont envie de faire des choses, tout simplement.
Tout à fait. En parlant de vidéo, je ne sais pas si c'est le PHP Forum ou le Paris Web, mais je crois que tu as une vidéo récente... Je vous dirai tout sur Drupal.
Oui.
Je mettrai le lien sur le site
forum
de l'émission.
PHP, c'est Forum Drupal, PHP. Drupal, je vous dis tout.
Ah, Drupal, je vous dis tout. Donc, on mettra le lien, comme ça, vous irez un peu plus loin pour la découverte de Drupal, parce que là, effectivement, c'est qu'une introduction. Et il nous reste une dizaine de minutes, mais je mettrai le lien vers la vidéo de Marine. Tout à l'heure, pendant la pause musicale, tu me parlais de la communauté, notamment de différentes façons que avait la communauté de contribuer, ou comment les personnes pouvaient contribuer à la communauté. Un des exemples, c'est les événements.
Ouais. Alors, en fait, un truc qui est vraiment important, c'est. On a un petit slogan dans Drupal, c'est « Venez pour le code, restez pour la communauté ». Et moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé, et je pense que Célou, c'est un peu pareil pour toi. Et en fait, une des forces de Drupal, c'est de reconnaître toutes les contributions. Et donc, il n'y a pas que le code dans la vie. Donc, notamment, on a un système de crédit sur le site drupal.org quand on a un compte et qu'on partage du code ou qu'on aide à résoudre des bugs, on a des crédits. Et ça marche aussi pour d'autres types de contributions, et ça peut être effectivement organiser un événement, présenter un sujet, faire de la pub pour Drupal, participer à la traduction, voilà, proposer des choses en termes de design. Enfin, en fait, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la communauté et l'image du logiciel et bah, sa qualité peut être reconnu comme une contribution. Donc en fait, c'est ça qui est génial. C'est Lou disait tout à l'heure que tous les profils sont bienvenus, mais c'est vrai. On peut être designer, on peut être juste rédacteur web, par exemple, rédactrice, et pouvoir contribuer à Drupal grâce à ça.
D'accord.
Et donc ça fait partie des choses qui rendent la communauté très accueillante et quand même relativement inclusive, si j'ose dire.
Oui. T'as vu ce que j'ai marqué sur ma feuille, non?
Alors là,
je blague parce qu'en fait, elle vient de dire le mot inclusive et moi sur ma feuille, je venais de marquer justement inclusivité pour me dire, j'allais poser la question juste derrière. Donc je vais poser la question, mais bon, pour que tu puisses enchaîner, effectivement, je suppose, enfin, j'en suis certain, vu que je sais à peu près ce que tu fais aussi quand même. C'est quelles sont les actions que mène la communauté Drupal justement pour l'inclusivité?
Déjà, il y a un groupe de diversité et inclusion, donc qui a son propre logo. Il y a eu beaucoup de choses sur les femmes dans la tech et tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des actions là-dessus. Je sais qu'il y a aussi des groupes sur, par exemple, mais c'est plus côté américain. Mais je pense que n'importe qui peut rejoindre, mais c'est plutôt l'idée côté américain sur, par exemple, les personnes noires dans la communauté Drupal, etc., avec leurs propres contraintes, etc. Et donc, ça permet de se regrouper entre personnes qui ont un peu la même expérience dans l'industrie que la tech, qui est quand même très normée sur un même type de profil. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans Drupal des personnes qu'on ne voit pas forcément ailleurs dans la tech, qui sont issues de parcours, peut-être de reconversion aussi, parce que la communauté étant très accueillante, c'est un peu plus facile de se sentir à sa place quand on n'a pas le profil type. Donc l'aspect communautaire, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il n'y aurait pas de Drupal sans la communauté. Et du coup, homme, femme, trans, peu importe sa couleur de peau, son orientation, etc., on est bienvenu. Alors bien sûr, comme dans toutes les communautés, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pommes pourries, comme on dit. Je peux pas garantir que ce sera parfait, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que on trouve sa place. C'est Lou,
une expérience à partager.
Oui, justement, en fait, Marine vient d'évoquer un slogan que j'aime beaucoup dans Drupal. Come for the software, stay for the community. C'est-à-dire, tu viens pour le logiciel et tu restes pour la communauté. Donc moi, en fait, c'est ma première fois à Montpellier de venir au Meetup Drupal, parce qu'à Montpellier, il y a des Meetup Drupal qui sont organisés chez une fois dans le mois. Donc ma première fois, j'étais venu par curiosité pour connaître Drupal, c'est-à-dire l'outil. Donc je suis venu et il y avait un sujet qui n'était pas du tout orienté débutant. C'était un sujet vraiment avancé sur Drupal. Donc j'avoue, quand je suis venu, la présentation, j'ai rien compris. C'est ma première fois de faire du Drupal. Mais j'ai trouvé une communauté bienveillante, accueillante, ouverte. Donc ça m'a encouragé de revenir la prochaine fois. Donc c'est comme ça que je me suis intégré dans la communauté. Et chaque mois je venais, j'ai appris Drupal au fur et à mesure, et jusqu'à ce que moi-même j'ai proposé des présentations, et voilà, c'est un partage de connaissances. Donc ce côté communauté de Drupal, c'est quelque chose que voilà, c'est quelque chose qui est très important, que j'ai beaucoup apprécié. Donc je suis resté à cause de la communauté, et voilà, sinon je serais parti le premier jour. Je suis venu tomber sur un sujet que je ne comprenais pas, ceux de Drupal, donc je pouvais partir, mais je suis resté à cause des personnes, des humains que j'ai trouvé là. Donc le côté humain est très important dans Drupal, c'est pas que le logiciel.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vrai que si vous venez poser une question sur notre Slack ou le Slack de la Drupal Association en anglais, on n'a pas des gens qui vont dire va lire la doc. Non, on va essayer de répondre, et on sait à quel point c'est difficile justement de rentrer dans Drupal, donc on veut pas décourager les gens. Donc on est tous passés par là, on essaye de soutenir. Mais c'est vrai que parmi les actions concrètes aussi sur ces sujets-là, la Drupal Association donc organise tous les ans, je disais tout à l'heure, la DrupalCon, donc la grosse conférence Drupal, notamment aux États-Unis et en Europe. Et tous les ans, il y a des bourses pour les personnes qui, justement, sont pas dans les cases et ont pas forcément les ressources, parce que ça reste des conférences assez chères, c'est une semaine, c'est le billet en moyenne dans les 700 euros, on va dire. Donc c'est prohibitif, quoi. Si on n'a pas une entreprise qui peut nous envoyer, c'est pas possible. Et donc, ils offrent des places tous les ans pour les personnes qui en ont besoin, qui pourront comme ça repartager à leur communauté locale ce qu'ils auront appris dans ces conférences-là. Et donc, il y a cette volonté de nourrir un peu voilà tout le monde. Et c'est, nous, en plus, c'est quelque chose qui nous touche particulièrement parce que, comme on est axé sur la francophonie, on veut essayer de proposer du contenu pas que aux Français de France, en fait, mais à toutes les personnes qui parlent français, qui ont besoin de ces contenus en français. Donc c'est vrai que des fois dans nos meet-ups en ligne, on a eu des personnes du Canada, de certains pays d'Afrique divers et variés, et puis même nos voisins suisses et belges qui ont leurs propres associations locales, ça arrive régulièrement qu'on aille les uns chez les autres, profiter un peu de ce tissu associatif et humain, quoi.
D'accord. La DrupalCon, elle a déjà lieu en France? Ou elle aura lieu un jour en France?
J'espérais que tu poses la question.
Alors, bientôt en France?
Elle a eu lieu en 2009, la dernière 2009. Fois en France. Et la prochaine fois, c'est cette année.
C'est ça, à Bordeaux?
Non, à Lille.
À Lille, ah, excuse-moi. Quelles sont les dates?
Caramba. Donc, c'est du 17 au 20 octobre à Lille.
Alors, bon, on en reparlera à ce moment-là.
Et donc, j'ai dans ma valise la mascotte.
C'est vrai?
Qui s'appelle Lille Rooster, qui est un coq de toute beauté, une grosse peluche assez massive. On vous fera des photos. Et là, du coup, pour encourager un petit peu, on va dire, une petite excitation, parce que ça fait longtemps que c'était pas en France, nous, on organise avec l'association ce qu'on a appelé le warm-up tour, sur le principe un peu des tournées de concerts avant les gros
festivals. Quoi.
Voilà, le coup tour de chauffe, exactement.
Tour de chauffe,
ouais. Et donc là, tous les mois, dans plein de villes de France, il y aura des rencontres en personne. Donc,
d'accord.
Avec différents partenaires qui hébergent des entreprises, donc qui hébergent la présentation retransmise sur notre site, enfin sur notre chaîne YouTube en direct pour les personnes qui sont loin. Et puis voilà, c'est traditionnel, il y a toujours un petit snack, un petit truc à boire pour pouvoir après profiter de se retrouver. Donc le calendrier sera dévoilé petit à petit, on a une newsletter d'accord. qui va partir, mais voilà. Il y a de l'actualité sur Drupal, notamment en France et en Europe, et ça nous fait vraiment plaisir.
Ah ben, en tout cas, si les gens qui nous écoutent doivent retenir une chose, c'est que la communauté Drupal est accueillante et que quel que soit votre passé, entre guillemets, ou qui vous êtes, vous serez bien accueilli effectivement dans Drupal. Alors, il nous reste très peu de temps, il nous reste même peut-être le temps de la dernière question, ou en tout cas de rajouter, si vous aviez encore un mot à ajouter, n'hésitez pas. Mais la question un petit peu habituelle de fin d'émission, donc pour conclure, quels sont les éléments clés que vous souhaiteriez que les gens retiennent, donc en deux minutes, chacune et chacun. On va commencer par Célou Diallo.
Alors, moi, je dirais en fait que l'élément clé, en fait, l'un des éléments clés de Drupal, c'est plutôt la communauté. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à venir vers la communauté Drupal, à s'intéresser à Drupal, mais pas que, surtout à s'intéresser à la communauté. Parce que il y en a qui travaillent professionnellement, qui travaillent dans des entreprises, qui sont développeurs Drupal, mais ils s'intègrent pas, ils viennent pas vers la communauté, ils savent même pas l'existence de la communauté. Donc c'est de venir vers la communauté, ça permet un peu de changer voilà l'environnement entreprise et on y apprend beaucoup. Moi j'y ai beaucoup appris. Aussi je tiens aussi à ajouter qu'il y a des meet-up en présentiel sur Paris. De Drupal, donc en fait on alterne un peu, donc un mois on organise des drinking Drupal, donc
des drinking
Drupal.
On a traduit ça par Drupapéro.
Drupapéro, d'accord. Voilà. Okay. Non, j'étais pas tout à fait sûr. Donc, Drupapéro, okay.
Donc on se rencontre dans un bar, voilà, on boit ensemble et puis on parle de Drupal, des actualités. Et puis après, le mois prochain, on organise un meet-up. Donc ça, c'est des meet-up en présentiel au-delà de ce
plus
qu'on organise à distance. À distance, voilà. Donc j'appelle les gens à venir. La communauté est très cool, très accueillante et ils se sentiront très bien.
Bah super. Marine Gandhi.
Oui. Alors bon, Célou a déjà bien parlé de la communauté, donc je vais axer un petit peu mon point sur la partie professionnelle. C'est vrai que pendant longtemps, Drupal a eu cette image un peu ringarde, je pense, auprès des développeurs et développeuses. C'est vrai que c'est construit sur une technologie PHP, qui, enfin, un langage qui est très, très âgé, très mature, mais du coup, qui entre un peu dans ce que beaucoup de techniciens pensent être de la boring tech, donc c'est ennuyeux. Il y a pas trop de... Voilà, c'est pas le nouveau truc à la mode, mais ça marche bien. Et ça a fait ses preuves. Et donc, en fait, Drupal, c'est vrai que c'est là depuis longtemps, donc on le regarde plus, c'est un peu un meuble, on le regarde plus trop. Et ça, c'est une grosse erreur. Je pense que quand on travaille dans le développement, il faut faire sa veille technologique proprement. Et donc, bah oui, il y a plein de choses qui se modernisent dans Drupal, que ce soit au niveau technique ou au niveau juste structurel. Et donc, bah vraiment... Qu'on soit voilà dans la partie un peu clic dans le back office ou dans la partie vraiment développement custom, on peut s'amuser. Donc en fait, si vous aimez les challenges et faire des choses avancées techniquement, vous pouvez le faire sur Drupal en fait. Il faut juste trouver la bonne taille de projet, et des projets très pointus en Drupal, il y en a énormément dans l'industrie automobile, voilà, dans la banque, avec des challenges vraiment spécifiques à ces domaines de métier. Donc voilà, ça peut être un outil qui peut convenir, même pour les devs qui aiment bien faire des choses pointues.
D'accord. Alors je signale à Jojo, je ne sais pas du tout qui c'est, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui est arrivé sur le Soundweb et qui dit que j'arrive à la fin, que le podcast sera bien sûr disponible d'ici quelques jours, sans doute plutôt lundi, je dirais. Je crois que la personne qui va traiter le podcast va le faire ce week-end. Donc en tout cas, vous écoutez, hein, j'ai l'impression que 2023 ça va être l'année de Drupal, et que en ce 14 février c'est un peu une déclaration d'amour à Drupal et à sa communauté. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour finir pour signaler que Marie-Odile, qui est Morandi, qui transcrit beaucoup de vidéos et d'audio pour le site librealire.org, dit deux personnes très sympas et qui encouragent à se rapprocher de leur communauté. Effectivement, je partage cet avis et je crois qu'effectivement la force de la communauté, vous en avez bien parlé, au-delà effectivement des capacités du logiciel qui a de faire encore triper et amuser des devs aujourd'hui en 2023, malgré le fait que ce soit en PHP, entre guillemets.
Exactement.
Malgré, voilà, c'est... En tout cas, écoutez, je vous remercie. Donc nos invités du jour, c'était Marine Gandhi, présidente de l'association Drupal France et Francophonie, et Célou Diallo, qui est secrétaire de l'association. En tout cas, je vous remercie d'être venu, et surtout d'être venu sur place en tout cas, et je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Nous allons faire une pause musicale. Alors après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Jean-Christophe Becquet qui nous parlera de Braille RAP, une embosseuse ou machine à écrire en braille sous licence de matériel libre. En attendant, et comme c'est d'actualité, nous allons écouter Grève Angélique par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Perchés sur leurs nuages, quelques anges de passage observaient les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils virent un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, des anges réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons pour une bouchée de pain. Même si le vin coule à flot, on n'a ni arche ni radeau, on n'ira pas très loin. Camarades azalés, on nous ment, on nous spolie. Tous avec moi faisons la grève au paradis. Ils prirent leur envol et dans une course folle arrivèrent devant Dieu. On se laisse marcher sur les ailes, on en a marre de faire du zèle pour un salaire de démon. Nous
Vous avez beau être notre père, on vous jettera des saintes pierres. N'oubliez pas la pétition. On défilera dans le couloir de la mort. Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors. Le Seigneur étonné arrêta de jardiner et prit sa plus belle voix. Les anges tombaient du nid, comment être pas ravis d'exercer au paradis. Inutile de me faire une scène, j'ai bien compris le problème. Mais je suis seul maître ici. Mon jugement final est déjà prononcé. Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix. Alors votre recueil de prières peut rester dans son sanctuaire. Et vous hors de ma vie. Les anges se mirent à genoux et prièrent, syndicats, priez pour nous. Jusqu'à perte de voix, d'un geste désinvolte, Dieu les remit à l'apôtre, sobrement les congédia. Le vent de révolte devint une prise de déception. Les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras, les anges partirent.
Les anges partirent déchus. J'aime beaucoup cette fin de cette chanson Grève Angélique par Captain, qui donc est disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnée pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becken nous présente une ressource sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces pépites ont choisi de mettre en avant l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites libres de Jean-Christophe Becken, vice-président de l'April. Jean-Christophe, t'es avec nous au téléphone ?
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le braille, du nom de son inventeur, est un système d'écriture présenté pour la première fois en 1829. Il permet aux personnes, aveugles ou malvoyantes, de lire à travers des points en relief perçus de manière tactile avec la pulpe des doigts. Chaque caractère est représenté sur une matrice de 6 points disposée en 2 colonnes offrant 63 combinaisons. Embosseuse est le terme consacré pour désigner une machine à écrire en braille. Et BrailleRap est une embosseuse dont le procédé de fabrication est partagé sous licence libre. Ce partage s'appuie sur la licence CERN Open Hardware License version 1.2. Il s'agit d'une licence copyleft pour le matériel libre proposé par le Centre européen pour la recherche nucléaire de Genève. Vous pouvez ainsi utiliser BrailleRap librement, construire la vôtre et même la vendre. Les différentes étapes de la fabrication, impression 3D, découpe laser des planches, préparation mécanique et électronique, assemblage, sont documentées et les plans disponibles sur le site web braillerap.org. Le projet s'appuie également sur des logiciels comme NetBraille pour la transcription des textes en braille et Marlin Stammer pour la gestion de la carte contrôleur. Tous deux sous licence libre, GPL. Cela montre bien comment des ressources disponibles sous licence libre peuvent être adaptées et réutilisées pour créer de nouvelles inventions. BrailleRap ressemble à une imprimante classique, mais un pointeau remplace la buse d'encre. Le bruit de son fonctionnement rappelle nos anciennes imprimantes patriciennes. La machine permet d'embosser sur du papier 160 grammes, mais aussi sur divers supports comme une feuille de plastique ou d'aluminium. En plus des caractères, la Braille Wrap fait embosser des contours. On peut donc réaliser des dessins, mettre en relief des plans ou des cartes. Pourquoi en faire une, interroge les auteurs. Je retrouve dans les réponses proposées l'esprit des quatre libertés du logiciel libre. Parce que vous en avez besoin, parce que quelqu'un en a besoin pour apprendre à assembler une machine numérique, pour expliquer comment en assembler une, pour l'améliorer et participer au projet. Le projet RaiWrap a vu le jour lors du Fabricarium, un événement organisé par My Human Kit en 2016. L'association My Human Kit a pour objectif de faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap et leur redonner du pouvoir d'agir. Elle anime le Human Lab, un Fab Lab ou laboratoire de fabrication numérique dédié à la réalisation d'aides techniques pour la compensation du handicap. L'objectif est d'offrir un espace de recherche et de partage de solutions. Comme pour Open Insuline, auquel j'avais consacré ma chronique en octobre 2021, un des objectifs de Braille Wrap est de rendre accessible au plus grand nombre un dispositif autrement très coûteux. Le prix d'une embosseuse Braille sur le marché démarre autour de 3000 euros, alors que le coût de fabrication de la Braille Wrap est estimé à moins de 300 euros pour les fournitures, soit un facteur 10. Bien sûr, il faut avoir accès aux machines et disposer d'un minimum de connaissances. Mais l'existence de plans et de documentation sous licence libre peut réellement changer notre rapport à ces techniques.
Bah écoute, merci Jean-Christophe pour cette belle découverte, hein, comme toutes les pépites libres que tu nous partages. Donc on va rappeler le site web, donc c'est braillewrap.org. Évidemment, on mettra là aussi les références sur libravo.org. Et je vous encourage toutes et tous à écouter les diverses chroniques pépites libres de Jean-Christophe, donc sur le site libravo.org. Et je vais peut-être rajouter juste un truc, comme tu parles d'accessibilité, Marie me disait juste pendant la pause musicale qu'on avait oublié d'indiquer que, en fait, Drupal, dont on vient de parler dans le sujet principal, était régulièrement audité pour des questions d'accessibilité, donc c'était vraiment très important. Donc voilà, je me permets de le préciser vu que tu parles d'accessibilité dans ta chronique, Jean-Christophe.
Oui, tout à fait, ça reste un sujet sur lequel l'informatique en particulier et les technologies en général, de toute façon, ont encore de nombreux défis à relever, je pense.
Tout à fait. Bah écoute, je te souhaite une belle fin de journée et puis on se retrouve le mois prochain pour ta prochaine chronique.
Ça marche, belle fin d'émission, merci.
Merci Jean-Christophe, au revoir. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, je vais commencer parce que j'ai un peu de temps, je pense. Nous avons mis en ligne en septembre dernier un appel à nous proposer des sujets pour notre émission de radio sur les libertés informatiques, voire la possibilité d'intervenir ou peut-être même de préparer et d'animer un sujet principal. Donc vous qui nous écoutez, vous pouvez nous suggérer des sujets, voire vous proposer d'intervenir dans une émission sur un sujet que vous proposez, voire de préparer et d'animer un sujet principal. Alors bien sûr, le choix des finales des sujets des personnes intervenantes reste du ressort de l'équipe de l'émission, mais n'hésitez pas à vous proposer. Et notamment pour le dernier cas, donc préparer et animer un sujet principal qui demande peut-être un peu plus de préparation que les deux autres parties, eh bien la personne, vous aurez notre aide pour la préparation de ce sujet, pour la préparation de l'animation, et le jour J, évidemment, nous serons également présents en régie pour vous aider en cas de besoin, mais vous animerez l'émission. Et je précise d'ailleurs que la semaine prochaine, donc le 21 février 2023, nous aurons le témoignage d'un assistant parlementaire promoteur du libre entre 2012 et 2017, et ce sujet nous a été proposé par la personne qui va en fait intervenir. Nous avons trouvé ce sujet particulièrement intéressant, et en plus la personne est pertinente, donc elle interviendra la semaine prochaine, 21 février 2023. Alors dans les annonces, il y a la semaine du partage de connaissances en informatique qui est organisée à Beauvais du lundi 13 février au vendredi 17 février, donc c'est cette semaine en fait, à Beauvais. On parlait tout à l'heure des Drupal apéro ou Drupal apéro, je ne sais plus. Ben, l'April, évidemment, nous sommes un peu comme tout le monde, on organise des apéros. Donc le prochain, ça a lieu le 17 février dans nos locaux à Paris. On parlait tout à l'heure de PHP, mais il y a d'autres langages qui existent. Et donc notamment, il est organisé donc du 16 février au dimanche 19 février à Talence, donc près de Bordeaux, la PyCon FR, qui est le plus grand rassemblement annuel de la communauté francophone utilisant et développant le langage de programmation libre Python. La conférence est intégralement organisée par les développeurs, les bénévoles de la communauté Python, encore la communauté dont on parlait tout à l'heure. À Paris, ce samedi 25 février, il y a un atelier de changement de système d'exploitation sur téléphone mobile, donc pour installer un système libre. Et du côté de Marseille, le même jour, le samedi 25 février, il y a une install party, une fête d'installation pour installer des systèmes d'exploitation libres sur vos ordinateurs. Évidemment, vous retrouverez tous les détails de ces événements sur le site agendadulibre.org et vous retrouverez les événements d'autres événements en lien avec les logiciels libres et la culture libre près de chez vous. Donc rendez-vous sur agendadulibre.org. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc Isabelle Carrère, Marine Gandhi, Célou Diallo, Jean-Christophe Becquet. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Thierry Holleville avec le soutien discret de mon collègue Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Donc Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qu'on adore malgré le fait qu'il nous ait programmé une émission, un podcast pendant notre horaire, mais on l'adore. De Olivier. Merci également à Quentin JBO qui est bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio. Pour agir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, voire même en ce 14 février, de l'amour. Ou nous poser une question. Donc le numéro du répondeur 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 21 février 2023 à 15h30. Notre sujet principal portera donc sur le témoignage d'un attaché parlementaire promoteur du libre, Frédéric Toutain, qui travailla pour la députée Isabelle Atta entre 2012 et 2017. Je vous informe également, ou je vous rappelle, que la radio Cause Commune couvrira normalement la manifestation parisienne contre la réforme des retraites jeudi 16 février 2023. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 février. Et d'ici là, portez-vous bien.